Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Passer de quelques minutes sur Radion. Bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission que je qualifierai aujourd'hui de devoir de mémoire nationale. En effet, à quelques jours des commémorations du 11 novembre qui verront l'écrivain Maurice Genevoix faire son entrée au Panthéon, nous reviendrons sur le centenaire de la tombe du soldat inconnu qui justement a été transféré le corps d'un soldat non identifié sous l'Arc de Triomphe à Paris. Et pour nous éclairer et évoquer certains aspects de la guerre 1914-1918, nous accueillons un professeur d'histoire en poste au Collège des Chaumes à Avallon, et il accueille aussi les publics scolaires à la Maison du Parc et notamment au Musée de la Résistance qui se situe dans cette maison du parc dans la Nièvre. C'est Jean-Charles Gibault. Bonjour Jean-Charles Gibault.
Bonjour.
Merci à vous d'être devant notre micro. Alors bien sûr, vous enseignez l'histoire, notamment la guerre, la première guerre mondiale aux élèves de 3e. C'est toujours au programme en 3e.
C'est toujours au programme, bien sûr.
Alors on dit la Grande Guerre, une guerre essentiellement européenne qui va se dérouler à l'échelle internationale et aussi à l'échelle industrielle. Ça, c'est la grande nouveauté de cette guerre qui est mondiale. Est-ce qu'elle est réellement mondiale ?
La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, une guerre totale et une guerre mondiale, effectivement. Nous avons une vision très franco-allemande du conflit, mais il ne faut pas oublier que les combats se déroulent, font rage sur l'ensemble de la planète. Plusieurs exemples, d'abord l'Afrique, terre de combat. Dès 1914, le Togo, les colonies allemandes vont être prises d'assaut par les troupes franco-britanniques, le Togo. 1916, des combats très violents au Cameroun qui vont passer sous l'escarcelle des Alliés. Donc l'Afrique, vraiment une terre de combat. N'oublions pas aussi toutes les forces africaines, les forces vives qui vont servir dans les troupes, parmi les troupes coloniales. On pense aussi évidemment aux troupes de Mangin, au chemin des Dames, hein, la force noire, la fameuse force noire. Mais aussi, bien sûr, tous les bras qui vont servir dans l'industrie, puisque c'est une guerre industrielle, notamment les populations d'Afrique du Nord qui vont être très, très souvent réquisitionnées pour venir prêter main forte dans les industries en France.
Alors, il y a des spahis, il y a bien sûr donc les empires, que ce soit pour les Britanniques, les Allemands. Enfin, l'Allemagne avait tout de même quelques colonies. Et puis la France, qui peut compter quand même sur un empire très, très important. Jean-Charles, je l'ai dit, guerre aussi industrielle, parce qu'au départ, il y a une guerre de mouvement, et puis ensuite, c'est l'enlisement. Chaque camp se terre dans des tranchées, et effectivement, la guerre devient beaucoup plus industrielle que le conflit de 1870, parce que bien sûr, il s'agit de terrasser un ennemi qui est, pardonnez-moi l'expression, planqué. Alors effectivement, c'est là qu'on invente des armes redoutables et qui vont tout de même participer amplement à la catastrophe humaine et au bilan sur lequel on reviendra vraisemblablement en fin d'émission.
Alors la guerre totale, effectivement, l'utilisation de l'industrie pour vaincre l'adversaire. Bon, l'exemple frappant, c'est la bataille de Verdun, hein, justement avec l'utilisation en masse du canon, plus de 1000 canons utilisés par les Allemands, 1 million d'obus tirés le 21 février 1916, le premier jour de la bataille. C'est l'objectif de l'état-major allemand, c'est, je cite, de marcher sur les cadavres. Donc l'utilisation des industries, des obus, des gaz, bien sûr, depuis 1915. Donc tous les moyens sont utilisés, c'est l'objectif de la guerre totale, pour vaincre l'adversaire.
Alors, vous avez parlé de la bataille de Verdun, Jean-Charles Gibault, donc je la resitue, hein, donc elle débute le 21 février 1916 jusqu'au 18 décembre 1916, dominée notamment par cette figure de Philippe Pétain, qui est général, je crois, à l'époque où... Peut-être pas, il n'est pas encore maréchal, ça c'est
non,
sûr.
Non, pas encore.
Bon, c'est lui qui redonne un certain moral aux troupes parce qu'il fait preuve d'humanité, contrairement au général Nivelle qui est, lui, assez inhumain et qui semble ne pas comprendre ses hommes. Mais pour revenir sur, effectivement, le poids industriel de cette Première Guerre mondiale, on considère à Verdun que 60 millions d'obus ont été tirés pendant les 10 mois qu'a duré cette bataille épouvantable.
C'est ça, un chiffre effrayant. Une tonne d'obus par mètre carré en décembre 1916. Voilà, c'est une terre ravagée. Le front, ce sont des trous d'obus. Il n'y a plus de ligne de front proprement parler. Les soldats se battent. Alors, c'est aussi le mythe de Verdun, c'est qu'une utilisation très très forte des obus, mais également des combats à l'arme blanche, qui vont rendre cette bataille mythique pour les Français, puisque c'est une bataille défensive du côté français, et une bataille assez incompréhensible, puisque Joffre lui-même ne s'attendait pas, malgré les grandes preuves de prudence, il ne s'attendait pas du tout à une attaque allemande à cet endroit-là, puisqu'on est à plus de 300 km de Paris, donc les Français sont surpris et vont se défendre jusqu'au bout, puisque la devise, c'est « on ne passe pas à Verdun ».
Et où, alors, il y a aussi où on les aura, le mot d'ordre de Pétain en avril 1916. Est-ce qu'en 1914, l'armée française est bien équipée? Alors, je ne parle pas de l'uniforme, puisqu'effectivement, il y avait ces pantalons un peu visibles au début. Après, on passe sur un uniforme bleu horizon. Il y a la protection de la tête des combattants avec le casque Adrian. Mais est-ce qu'en 1914, la France et ses alliés sont bien préparés, militairement parlant, face à la Prusse, l'ennemi héréditaire?
Alors oui, la guerre, on la prépare depuis très longtemps. Il y a eu une réforme du service militaire. La guerre est dans les esprits. Hein. On attend le prétexte pour la déclencher. Mais c'est vrai que l'utilisation, l'armement va considérablement évoluer tout au long de la guerre. Je pense particulièrement à l'aviation, qui en 1914 sert principalement pour l'observation, l'ajustement des tirs d'artillerie, mais à partir de 1915, l'aviation devient véritablement une arme de combat, notamment grâce à l'invention de Roland Garros, qui va faire installer une mitrailleuse qui peut tirer à travers l'hélice, et là on peut lancer la chasse, la fameuse chasse. Donc l'aviation devient une arme à part entière, symbolisant justement ces fameux chevaliers du ciel, personnages très célèbres, des héros vraiment de la guerre, notamment Georges Guynemer par exemple, fauché à 22 ans, qui fait partie de l'escadrille des Cigognes fameuses, des figures totalement héroïques dont la propagande fera évidemment usage pour rendre cette guerre plus attrayante, pour faire parler aussi des victoires françaises ou allemandes également.
Alors, nous l'avons dit, Jean-Charles Gibault, pour essayer de faire sortir l'ennemi des tranchées ou pour le faire reculer, il y a aussi un instrument militaire alors qui, dans un premier temps, je crois, est testé par l'armée britannique dès 1915. C'est ce qu'on appelle les tanks, c'est-à-dire le terme qu'on traduit par citerne en anglais, mais c'est le début du char, du blindé. Enfin, ouais, le blindé, version un peu... originel, parce que...
Oui, les chars d'assaut qui sont utilisés. Alors, au départ, les troupes se cachent derrière pour avancer, derrière le char pour avancer. Puis, on se rend compte assez rapidement, tout comme l'aviation, que c'est une arme qui peut être aussi une arme offensive. Donc, on va le développer au fil de la guerre pour justement utiliser au mieux cette arme très intéressante mise en place. Alors, évidemment... qui va également être produite dans les usines d'armement, qui va se développer considérablement en France, en Angleterre aussi, bien sûr.
Alors c'est Renault, hein, il y a le char Renault qui s'illustrera pendant
symboliquement,
cette Première Guerre mondiale. Jean-Charles Gibault, vous êtes avec nous jusqu'à midi à bord de Wagon Livre pour réévoquer certains aspects de la Grande Guerre, pour parler aussi de ce choix de ce soldat non identifié qui repose depuis maintenant un siècle sous l'Arc de Triomphe à Paris. Et puis nous parlerons aussi, et ça vous me le disiez hors micro, il est vrai que l'actualité étant un peu effervescente aux quatre coins du monde, et puis cette épidémie de Covid semble effectivement faire passer à la trappe d'autres informations qui néanmoins sont essentielles. Il y aura l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. Nous aurons, grâce à vous, l'occasion d'en parler. Nous marquons un premier temps de pause musicale. On écoute Le Cri du Poilu. C'est extrait d'un album CD de Tichot, 14-18, Une vie de bonhomme. Et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes avec notre invité Jean-Charles Gibault.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Tant que dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur les petits Prussiens. Mais quand ils sont hors peau et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, au lieu de voir la tête des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, crée bon sang, qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme. Quand Henri Bambelle, il bouffe la gamelle, c'est vite avalé, en deux temps ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allongé il baille, se faisant nom de nom, presque tous la même réflexion. Et dans ce moment-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, quand ils ont bouffé leur rata, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, sapristi pour calmer leur mère, si leur arrivait comme dessert. Une femme, qu'elle soit grande ou petite ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit. Une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée, par les petits créneaux, ils envoient aux boches des pruneaux. Puis ils se reposent, pensent à des tas de choses qui leur font crénom passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme, à ce moment c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme, et comme prière du soir, ils disent bon Dieu fais-nous donc voir. Une femme.
Wagon Livre. Votre émission littéraire.
La suite de votre émission littéraire aujourd'hui avec notre invité Jean-Charles Gibault, qui est professeur d'histoire au Collège des Chaumes à Avallon. Et j'ai oublié, et je m'en excuse de le préciser au début de notre émission, c'est que Jean-Charles Gibault est l'auteur des textes et scénariste d'une bande dessinée avec son camarade et complice Ilker Caliscan, également enseignant dans le même établissement que Jean-Charles Gibault. Une bande dessinée alors qui, elle, nous parle d'une autre guerre, puisqu'on est en 52 avant Jésus-Christ, qui vit s'affronter vers Saint-Gétorix contre les Romains. Donc les deux tomes sont disponibles aux éditions CIL,
avec
IL. Alors on peut très bien les commander directement sur le site de la maison d'édition YIL, YIL, ou alors on peut les commander chez son libraire, il suffit de s'organiser.
Voilà,
en ce moment, il semblerait que tout soit possible. Donc Vindicta, tome 1, Vae Victis, et le tome 2, Le vol noir du corbeau, en attendant le dernier volet du triptyque.
La trilogie bientôt terminée, dans quelques semaines, normalement.
Voilà, espérons a glissé le troisième tome sous le sapin pour les fêtes de fin d'année. Alors Jean-Charles Gibault, nous l'avons dit, d'ici quelques jours, on commémore le traditionnel 11 novembre, mais cette année 2020, c'est un centenaire à marquer parce que il y a un siècle, la France se retrouvait unie, une fois de plus, au pied de l'Arc de Triomphe pour y faire reposer le soldat inconnu. Je vous laisse un peu nous expliquer comment tout cela s'est mis en place, Jean-Charles.
L'union autour du soldat inconnu, alors c'est une union qui, au départ, n'est pas si évidente. Les anciens combattants sont assez en colère en ce mois d'octobre 1920, puisqu'ils découvrent que les Britanniques vont rendre hommage à la cathédrale de Westminster à l'un de leurs Tommies mort sur le sol français, un soldat inconnu justement, et eux déplorent qu'en France, il ne se fasse rien et ils vont se faire entendre. Au départ, les autorités et le gouvernement pensaient plutôt rendre hommage en ce deuxième anniversaire de l'armistice au cinquantenaire de la Troisième République, puisque le cœur de Gambetta devait entrer au Panthéon. Et face aux revendications des anciens combattants, le gouvernement s'est dit pourquoi pas allier à cette occasion l'entrée d'un soldat inconnu au Panthéon. C'est sans compter le vigoureux mécontentement des anciens combattants qui refusent le Panthéon, considérant qu'il est un peu trop à gauche, selon la politique des anciens combattants de l'époque. Et ils privilégient au contraire l'Arc de Triomphe, qui pour eux est vraiment l'endroit idéal. C'est la volonté et la mobilisation des anciens combattants qui a permis de rendre hommage à cet ancien combattant, ce soldat inconnu, qui sera donc inhumé sous l'Arc de Triomphe.
Alors le point de départ, c'est Verdun, c'est-à-dire que c'est dans la citadelle de Verdun que se trouvent 8 cercueils contenant les restes de soldats absolument inconnus, enfin non identifiés, et qui viennent de différents lieux de bataille, hein, la Somme, les Flandres, le Chemin des Dames, la Lorraine, etc. Et on demande à un jeune Français qui s'est engagé volontaire, qui s'appelle Auguste Thin, il est deuxième classe, et c'est lui qui est choisi. Alors on lui donne un petit bouquet de fleurs et on lui demande au hasard de déposer ce bouquet de fleurs sur un des 8 cercueils, et c'est le cercueil choisi par ce jeune homme qui va rentrer dans un mythe, une légende très franco-française tout de même et symbolique.
Alors il est choisi entre guillemets comme main innocente. C'est un choix volontaire, puisqu'il a été justement un volontaire de la classe 19. Son père a lui-même disparu pendant le conflit. Donc c'est un soldat qui est véritablement apte à choisir. C'est André Maginot, le ministre des Pensions, qui sera présent d'ailleurs lors de la cérémonie, dans cette chapelle ardente de Verdun, avec des membres ecclésiastiques de Verdun, ainsi qu'une veuve. Des reporters qui sont là, comme Roland Dorgelès également, qui est présent pour le journal L'Excelsior. Donc une cérémonie de choix, entre guillemets, de cette tombe, de ce cercueil, pardon, qui est véritablement pleine d'émotions. Et ce jeune soldat, Auguste Thin, dira qu'il a fait le choix par rapport à son unité, puisqu'il fait partie du 132e, donc il va 132e régiment d'infanterie, il va additionner les 3 chiffres pour arriver au 6. Et donc, c'est pour cette raison qu'il posera, il déposera le bouquet d'œillets sur ce cercueil de chêne, du 6e cercueil de chêne.
Et d'ailleurs, on va entendre la voix de ce jeune homme, Auguste Thin, qui sélectionna parmi les 8 cercueils, le cercueil qui repose sous l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1920. Et c'est une archive, et on écoute Auguste Thin qui explique de quelle manière il a choisi ce cercueil.
Je suis le parrain du soldat inconnu. J'étais le plus jeune ancien combattant de mon régiment, et puis j'étais engagé volontaire dans l'infanterie. Alors c'est ce qui a valu le choix du ministre. Le Parlement avait décidé que tous les morts de la guerre seraient représentés par un soldat français inconnu. À cet effet, il avait été relevé dans les 8 secteurs du front, de la mer du Nord aux Vosges, un soldat français, on était certain, ne possédant sur lui aucune trace qui puisse lui le faire identifier par la suite. Ces 8 cercueils avaient été rassemblés dans la citadelle de Verdun et M. Maginot présidait la cérémonie. M. Maginot me remit un bouquet en me disant que le cercueil sur lequel je déposerai ce bouquet de fleurs serait celui qui reposerait sous l'Arc de Triomphe à Paris pour immortaliser tous les morts de la guerre. J'ai fait un tour d'honneur en hommage à tous les morts de la guerre. Et au cours du deuxième tour, j'ai déposé mon bouquet de fleurs sur le 6e cercueil. J'étais au 132e régiment d'infanterie à Verdun. Alors le total des chiffres de mon régiment faisait 6, 1 et 3, 4 et 2, 6. Et le régiment faisait partie du 6e corps d'armée. Alors j'ai décidé aussitôt, j'ai dit total des chiffres de mon régiment 6, faisant partie du 6e corps, je choisirai le 6e corps. Et c'est pour cette raison que c'est le 6e cercueil qui s'est présenté à moi, qui est sous l'Arc de Triomphe à Paris.
C'était donc Auguste Thin qui racontait, quelques années après l'événement, de quelle manière il a choisi celui que l'on appelle aujourd'hui le soldat inconnu, qui repose donc sous l'Arc de Triomphe, un monument voulu par un empereur, qui a été ensuite construit par un roi et qui a été sanctuarisé par la République. On peut penser que d'ici quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra, comme tous les chefs d'État, le 11 novembre, sous l'Arc de Triomphe, pour saluer la mémoire de ce soldat inconnu qui, finalement, représente les fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils ou les époux de toutes celles dont le foyer a été prématurément brisé.
C'est cela, c'est un moment important. Roland Dorgelès, qui était présent justement à la cérémonie, dira que ce soldat inconnu est un enfant d'un peuple en deuil, et chaque mère qui s'inclinera sur cette dalle pourra dire « c'est peut-être le mien ». Donc c'est un moment important, un moment de souvenir, et c'est aussi malheureusement le drame de cette guerre industrielle avec des corps disloqués, des corps qui sont tellement meurtris qu'on ne pourra retrouver leur identité. Il était important justement de souligner cela à travers ce soldat inconnu qui repose donc sous l'Arc de Triomphe. Il faudra attendre quand même 1923, le 11 novembre 1923, pour que ce même André Maginot, présent lors de la cérémonie, qu'on puisse avoir la flamme du soldat inconnu qui apparaîtra seulement en 1923.
Voilà, alors une bouche à feu, hein, en fait, c'est la bouche d'un canon, c'est la gueule d'un canon qui est braquée donc vers le ciel et qui est entourée d'un rayonnement de 25 glaives. Et cette bouche à feu a été conçue par l'architecte Henri Favier. Voilà, et elle est chaque jour ranimée, je crois, à 18h30. Il y a un comité officiel, il y a même des sites internet, hein, je vous invite à aller regarder. Mais c'est tout à fait passionnant parce qu'il y a encore finalement beaucoup d'associations. Alors, d'anciens combattants, évidemment, il n'y a pas que la guerre 14-18, il y a eu des combats plus récents. N'oublions pas, il y a l'Algérie, enfin l'Indochine, l'Algérie. Le souvenir français aussi.
Le souvenir français très présent,
qui,
oui.
Voilà, qui effectivement s'insurge du fait qu'un certain nombre de sépultures de soldats dans des cimetières sont condamnées à être détruites et les vestiges de ces corps finir à la fosse commune.
Oui, c'est vrai qu'à travers ce soldat-là, on peut aussi commémorer d'autres conflits. C'est l'utilité de ce lieu, c'est aussi de symboliser la France, les conflits qui ont marqué la France, pas seulement la Grande Guerre, même si la Grande Guerre, justement, est à l'origine, peut-être, de nombreux conflits du XXe siècle. Donc il y a quand même un lien, malgré tout, et la mémoire de ce soldat inconnu peut aussi se retrouver dans d'autres mémoires, d'autres guerres, un peu plus tard.
C'est Jean-Charles Gibault qui est avec nous aujourd'hui, professeur d'histoire au Collège des Chaumes à Avallon. Et Jean-Charles, vous accueillez aussi le jeune public scolaire. Je vous laisse un petit peu nous expliquer.
Oui, au service éducatif du Musée de la Résistance de la Nièvre, hein, effectivement, de Saint-Brisson, avec également des sorties dans le maquis. Hein. On peut aussi aller rencontrer les restes du maquis Bernard également. Donc c'est un moment intéressant, c'est l'histoire autrement, c'est vivre l'histoire là où elle s'est déroulée. Donc c'est une manière aussi de transmettre ma passion, évidemment, de l'histoire à un public scolaire, mais en dehors des salles de classe. C'est bien aussi de sortir de la salle de classe parfois.
Alors, tantôt dans la bande dessinée, tantôt hors de la salle de classe au musée de la Résistance à Saint-Brisson dans la Nièvre, tantôt devant les élèves en présentiel et devant le micro de Wagon Livre. Merci. Jean-Charles Gimbaud.
C'est toujours un plaisir. La radio est pour moi le meilleur média pour parler d'histoire d'ailleurs.
Alors écoutez, tant mieux et je ne saurais vous désapprouver. On marque une nouvelle pause musicale, toujours en lien avec notre émission. C'est toujours extrait de l'album CD de Tichot, 14-18, Une vie de bonhomme. Et le titre, c'est L'heure idéale.
C'est là-bas dans la tranchée, la mort à tous les instants. C'est l'humanité fauchée, comme les fleurs du printemps. C'est ville et campagne en flammes, et malgré cela debout. Pour le salut de nos âmes, il faut aller jusqu'au bout. C'est la cueillaison brutale des rêves les plus ardents. C'est de la chair qui s'étale et des asticots dedans. C'est l'horreur dans la souffrance, et malgré cela debout. Pour la grandeur de la France, il faut aller jusqu'au bout. C'est après la charge folle, vers les canons meurtriers, l'épouvante qui racole auprès d'un champ de laurier. C'est la liberté qui saigne, et malgré cela debout. Pour qu'arrive enfin son règne, il faut aller jusqu'au bout. C'est la croix sur la poitrine du fabricant d'orphelins qui dérobe à la colline les ailes de ses moulins. C'est bâillonner la justice et malgré cela debout. Pour que sa voix retentisse, il faut aller jusqu'au bout. C'est la gloire aux ailes blanches qui paraît à l'horizon. Quand l'arbre n'a plus de branches et le gueux plus de maison, c'est le droit qu'on martyrise. Et malgré cela, debout, pour lui bâtir une église, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi fallait-il se battre comme avant 89? La poule au pot d'Henri IV est encore dans son œuf. On meurt de l'attendre naître, et malgré cela, debout, pour celle aux œufs d'or du maître, il faut aller jusqu'au bout. L'heure idéale, c'est l'immonde, arbitre de nos destins. L'affranchissement du monde, remis à d'autres matins. C'est dans les cœurs en déroute, le passé remis debout. Et c'est pour cela sans doute qu'il faut aller jusqu'au bout.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Bien évidemment, lorsque l'on évoque la Grande Guerre, on peut se tourner vers les livres d'histoire, on peut aussi se tourner vers une littérature. Alors, il y a de la fiction, il y a des récits, il y a des autobiographies, il y a toutes les lettres de Poilu qui ont été parfois collectées, rassemblées, Jean-Charles Gimbaud. Et parmi les très nombreux écrivains combattants, on peut et on doit, en cette année 2020, s'arrêter sur la figure de Maurice Genevoix. Je vous laisse un peu nous en parler, Jean-Charles.
Maurice Genevoix, qui a été donc choisi par le président de la République, Emmanuel Macron, pour faire son entrée au Panthéon. Alors pourquoi Maurice Genevoix? D'abord parce que c'est un combattant, un écrivain combattant, comme vous l'avez dit. Il va faire partie donc d'une génération sacrifiée. Bon, on utilise beaucoup ce terme parfois, mais pour le coup, lui, ce normalien, ça qui finit major de promo, dans sa promotion à l'école normale, la moitié seront tués pendant la Grande Guerre. Donc, et lui-même sera mutilé d'ailleurs, puisqu'il perdra l'usage du bras gauche. Donc c'est vraiment un combattant qui a raconté, ce n'est pas un roman, hein, il raconte, c'est un récit de la guerre, de sa guerre, et il a la particularité d'avoir une écriture humaniste, sobre, qui met en avant ses camarades, la fraternité des combattants, dans son unité notamment. Il a envie de raconter, d'expliquer ce qu'il s'est passé. Alors il explique la guerre, il explique les éparges, hein, la violence des combats, où lui-même sera blessé d'ailleurs, on l'a dit. La fraternité, il parle beaucoup aussi, ce qui est intéressant, un sujet de prédilection pour lui, c'est la nature, les animaux. Hein, il en parle beaucoup, les chevaux d'artillerie par exemple, les chats qui traversent les tranchées, une chouette aux éparges aussi dans un clocher. Il parle beaucoup des animaux. Voilà, c'est un écrivain, c'est un style. Et son expérience combattante, elle a duré 8 mois. Et pourtant, il a réussi à en écrire près de 1000 pages. Donc, véritablement, une mine d'or pour les historiens et pour le grand public aussi, qui a envie de s'intéresser à ce conflit.
Alors, ce cycle de récits est rassemblé sous le titre « Ceux de 14 ». Et il y a effectivement donc « Sous Verdun, Nuit de guerre, Au seuil des Guitounes, La boue et les éparges ». Donc, l'ensemble est vendu sous le titre « Ceux de Verdun » et on le trouve très, très, très facilement. Alors, c'est assez épais, mais comme vous l'avez dit, Jean-Charles Gibault, ce sont des écrits qui offrent un regard vrai sur les combattants et sur la guerre. Tandis que, alors, il y avait débat un petit peu au lendemain de la Première Guerre mondiale sur certains romanciers qui peut-être avait exagéré les faits d'armes, les souffrances. Enfin, c'était un peu compliqué ce débat à qui raconterait avec le plus de réalisme la guerre de 14-18.
C'est vrai. D'ailleurs, il n'obtient pas le prix Goncourt pour ceux de 14. Hein, il l'obtiendra plus tard pour Abolio. Mais d'autres auteurs très célèbres, on les connaît. Hein, c'est Henri Barbus, évidemment.
Le Zola des tranchées.
Voilà. Bon, après... Genevoix aussi, ce qui est intéressant chez Genevoix, c'est qu'il n'a pas d'opinion politique à travers ses récits, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les auteurs qui vont, par l'intermédiaire de leurs témoignages, évidemment orienter idéologiquement leurs propos. Genevoix, lui, il est assez neutre de ce point de vue-là, et ce qui est aussi peut-être la raison pour laquelle c'est lui qui est choisi aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être pour ça que de nombreuses générations d'écoliers, la mienne d'ailleurs, a connu Maurice Genevoix au collège, à l'école. Je me souviens d'exposés faits avec un ami, Guillaume, il s'en souviendra peut-être également, au collège, en troisième, sur Maurice Genevoix. De nombreuses dictées qui se terminaient par point Maurice Genevoix. Donc c'est vrai qu'il a marqué aussi de nombreuses générations d'écoliers à travers ses écrits. C'est peut-être aussi pour cela qu'il va entrer au Panthéon. Normalement, si tout est prévu comme... c'est ce qui était le choix du président.
En tout cas, oui, c'est en tout cas dans un article du Figaro là, du 29 octobre dernier, il est question de la cérémonie, de la panthéonisation, donc, de Maurice Genevoix, qui est mort il y a 40 ans, en 1980, et qui était né, ne l'oublions pas, dans la Nièvre, hein, à Decize, même si plus tard, bon, il a quitté un peu ce département. Mais c'est vrai que Maurice Genevoix... Alors, c'est amusant ce que vous dites par rapport aux dictées de Maurice Genevoix, mais il est vrai aussi qu'il était reconnu comme un très grand styliste et écrivain, un français extrêmement pur, peut-être la raison pour laquelle il
aussi,
était
aussi,
livré comme un modèle d'écrivain. Donc Maurice Genevoix, je rappelle, ceux de 14, qui est vraiment l'œuvre littéraire de Genevoix, du combattant, comme vous l'avez dit, blessé. Hein. Lui-même sait ce qu'était la souffrance. Il a connu la vie avec ses... Il était, je crois, officier,
sous-lieutenant d'infanterie aussi.
Et effectivement, il n'a pas été planqué. Hein. Il est parti très très jeune, comme beaucoup de jeunes Français, au combat, blessé. Et il en a ramené effectivement ses écrits qui font date et qui sont d'une grande richesse aussi pour les historiens, parce que ce n'est pas de la littérature de divertissement, c'est du témoignage, et c'est de la matière première pour les historiens.
En plus, c'est très bien écrit, donc c'est très intéressant également, c'est une matière première. Alors, à travers aussi ses textes et ses propos, on voit aussi qu'il a... Alors, il n'était pas planqué du tout, hein, effectivement, puisqu'il a même... il a tué lui-même, il explique, d'ailleurs, qu'il a tué... Alors, il s'est auto-censuré à un moment donné, il a... enlever une partie de ce récit, parce qu'il a tiré dans le dos de soldats allemands, alors il l'avait enlevé, et finalement dans la réédition 1949, on a remis ce passage. Ça montre aussi que malgré ce récit, son écriture, il y a quand même des choses qui restent, hein, et lui-même il y a quand même ce dégoût de la violence, ce dégoût de la guerre qu'il transmet, mais qu'il veut quand même aussi, il se pose quand même des questions par rapport à ça. Et Maurice Genevoix, c'est véritablement ce qu'a dit le président de la République. À travers lui, c'est aussi toute une série d'anonymes. Hein, il n'y a pas que Maurice Genevoix, il y a les anonymes qu'il évoque dans son récit, qui entrent avec lui au Panthéon. Donc c'est une panthéonisation collective, comme dit le président de la République. C'est le porte-étendard. Donc à travers lui, c'est la génération, cette génération de 14 qui est partie au combat et qui a livré pendant 4 ans des combats acharnés sur le sol national.
Puisque nous disposons de quelques archives, je vous propose de réentendre la voix de Maurice Genevoix.
Nous abandonnions un monde qui avait ses, non pas ses tabous, mais ses croyances, ses fois, ses critères, qui étaient bâtis sur tout un ensemble de réalités sociales et morales. Du jour au lendemain, tout cela avait basculé et était remis en question. Je crois que, en définitive, pour ceux qui ont traversé ces épreuves, je me rappelle tel ancien combattant disant « Celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler. » C'est intransmissible. Et malheureusement, sans quoi il n'y aurait, je crois, plus jamais de guerre. Nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, nous ne voyons plus que des fantômes et des morts.
Nous venons d'entendre Maurice Genevoix, justement. C'est très émouvant d'entendre les voix des personnages historiques, maintenant, hein, historiques du XXe siècle. Alors, il y a d'autres auteurs. Hein, il y a Roland Dorgelès, également, qui ont participé à cette guerre, qui ont laissé un témoignage, qui ont laissé des récits, hein, les fameuses croix de bois de Roland Dorgelès. Alors, vous savez, j'aime beaucoup la bande dessinée. Et j'ai découvert récemment la nouvelle réédition des croix de bois, mais en bande dessinée, qui est un ouvrage, on parlait des fêtes de Noël, qui est vraiment magnifique et qui reprend les textes de Roland Dorgelès, que nous pouvons entendre également.
Il ne fallait pas espérer d'autres distractions dans ces mornes villages de l'arrière. Pas une jolie fille à qui sourire, rien que des vieilles affichues qui vous vendaient du mauvais vin en rechignant. Alors, faute de cabaret, on se réunissait à la cuisine roulante et pendant que le cuistot, debout sur sa machine, touillait la soupe avec un échalas, nous écoutions avec méfiance les cyclistes du colon et les téléphonards débiter de surprenantes nouvelles. Notre régiment était envoyé aux Dardanelles, les conseils de guerre étaient supprimés, on attendait le renfort des Sénégalais pour déclencher l'offensive. Parfois on les faisait taire. « C'est du bourrage, tu nous prends pour des glands !» Mais s'ils s'annonçaient quelque chose d'heureux, on y croyait quand même un peu. Les journaux aussi nous trompaient. Quand arrivant en repos après une attaque meurtrière, nous lisions dans le communiqué que nos pertes avaient été légères, les imprécations éclataient. Et ceux qui sont restés en haut de la crête, on n'en parle pas. Et ceux qu'on a achetés dans la fosse, ils ne les ont pas comptés, ces salauds-là.
La voix de Roland Dorgelès, à l'instant dans Wagon Livre. Roland Dorgelès, auteur des Croix de Bois, paru en avril 1919 chez Albin Michel, qui a obtenu d'ailleurs le prix Fémina et non le Goncourt, qui en 1919 a été décerné à un certain Marcel Proust. Effectivement, il faudra attendre quelques années pour que d'autres combattants écrivains reçoivent des prix. Je rappelle quand même qu'en 1919 est créée l'Association des écrivains combattants. Elle compte 560 écrivains morts à la guerre, bon, qui n'étaient pas forcément tous connus, mais qui va jouer un rôle important. Et les noms d'ailleurs de ces écrivains ont été inscrits sur des plaques apposées au Panthéon dès 1927. On voit bien d'ailleurs quand même que cette saignée a laissé une trace, pas seulement à travers les monuments aux morts, dans les UFM maintenant, les instituts universitaires de formation des maîtres, mais dans les couloirs, il y a des plaques encore, hein, qui rendent hommage aux instituteurs qui ont été très nombreux, puisqu'ils assuraient des fonctions d'encadrement en tant qu'officiers. Hein. Je pense par exemple à Louis Pergaud, l'instituteur du Haut-Doubs, qui effectivement a été emporté par... la guerre dès ses débuts, on a effectivement beaucoup d'instituteurs qui ont été balayés par la guerre de 14-18, comme les paysans d'ailleurs, Jean-Charles.
Ils ont payé un lourd tribut, c'est vrai. Les corporations de professeurs, de paysans sont vraiment touchées au cœur. Et toute la nation, toute la France, toutes les familles de France sont touchées par de près ou de loin par quelqu'un qui est parti ou qui est parti au combat ou qui est mort au combat.
Jean-Charles, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle pause musicale. C'est toujours un titre extrait de l'album CD de Tichot, 14-18, Une vie de bonhomme. Le titre que nous vous proposons, c'est à Hurtebise. Et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes avec notre professeur d'histoire, Jean-Charles Gibaud, pour la suite de notre wagon-livre qui, bien sûr, n'a pas l'ambition de couvrir tous les aspects de 14-18. Ce serait totalement impensable en une heure. Mais Jean-Charles, en tout cas, juste après la pause musicale, je vous inviterai à nous parler un petit peu de la condition des femmes, parce qu'elles ont aussi eu leur rôle pendant ce conflit meurtrier. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Connaissez-vous ce grand coteau que borde l'immense plateau? Le soir, s'en vient souffler la bise, c'est Hurtebise. On y va doucement, en douceur, avec un battement de cœur, car des balles on craint la traîtrise à Hurtebise. Elle passe dans l'air en ronflant, froufroutant doucement en sifflant, des balles, c'est l'aubade exquise à Hurtebise. Parfois une fusée au ciel semble singer le grand soleil, comète à la queue qui s'irise sur Hurtebise. Un bruit arrive du lointain, une bombe éclate soudain, coup formidable qui paralyse toute Hurtebise. Les amateurs de sensations s'en vont à la vallée Foulon, le soir où la corvée s'organise pour Hurtebise. Balala, balala, balapaïla. Le dos voûte les reins, on y porte plus lourd qu'une valise à Hurtebise. La vie des tranchées a du bon, on y conserve son pognon, forcément on y économise à Hurtebise. On y soigne sa petite santé, du café, de l'eau, du thé, l'alcool est à peine de mise à Hurtebise. Heureusement que chaque soir on a des nouvelles du terroir, remerciant notre ami Glisse, facteur d'Hurtebise. Ô ferme, tu n'es plus qu'un nom, tu es tombé sous les canons, nous travaillons à ta reprise, ô Hurtebise.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les femmes dans la Grande Guerre, Jean-Charles Gibaud, ont été un peu beaucoup, il n'y a pas qu'elles, mais les héroïnes de l'arrière, les hommes étant en grande majorité au front, un grand nombre d'emplois se retrouvent sans main-d'œuvre masculine. Et les femmes vont assurer, si je puis me permettre l'expression.
Alors effectivement, les femmes vont prendre leur place. Il faut remplacer les hommes partis au combat. Elles vont donc, pour beaucoup d'entre elles, travailler dans les usines d'armement, les fameuses munitionnettes qui vont fournir aux hommes de quoi combattre sur le front. Certaines vont s'illustrer également dans d'autres domaines, notamment l'espionnage, puisqu'on parle beaucoup de Mata Hari, mais d'autres. De nombreuses espionnes vont avoir un rôle très important à jouer. Et parmi les femmes, alors c'est plutôt à la fin de la guerre, dont on parle peu, ou pas assez en tout cas, c'est notamment les veuves, puisqu'elles sont reconnues par une loi de 1919 comme étant les victimes de guerre. Donc elles ont droit, comme n'importe quelle victime de guerre, à des réparations. Et elles vont donc toucher une somme de 800 francs, plus 500 francs en fonction des enfants à charge supplémentaires. Donc elles sont reconnues comme victimes de guerre. Elles sont 650 000 veuves. Il y a le cortège des dames en noir qui se manifeste à partir de 1918. Alors c'est très très codifié puisqu'elles sont habillées en noir, il y a ce qu'on appelle le grand deuil pendant un an, puis le demi-deuil. Et alors, l'État français est un peu moralisateur, puisque chaque veuve, si elle se remarie, perd la pension, hein, perd le droit à cet argent. Donc, effectivement, c'est quand même très important. Il ne faut pas oublier ces femmes-là qui ont payé un lourd tribut et qui ont dû ensuite s'occuper des enfants, s'occuper de la famille. Et justement, elles ont eu droit à des emplois. On leur a permis d'avoir accès à des emplois plus facilement. Et c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier.
Alors, une émancipation, certes, mais c'est pas pour cela qu'on va leur accorder le droit de vote.
Ah non, dès la fin de la guerre, les femmes sont priées de regagner un peu leur rôle d'avant. On oublie pratiquement ce qui s'est passé. Elles ont connu une certaine liberté. C'est pas facile de renoncer à une vie active. C'est pas facile de renoncer à certains droits. Mais en tout cas, les droits politiques ne leur sont pas accordés, contrairement à nos voisins européens qui, eux, vont faire le choix de donner accès à la citoyenneté totale aux femmes.
En tout cas, je notais, Jean-Charles Gibault, que 10 000 femmes sont décorées de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, certes, mais ça ne va pas plus loin.
Non, alors les décorations, c'est bien, mais peut-être aurait-elle souhaité davantage.
Alors, un petit mot, Jean-Charles, cette guerre de 14-18, il y a des tas d'aspects. Alors, il y a des aspects militaires, il y a des aspects sociologiques, des aspects économiques. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, à titre personnel, hein, je ne dis pas dans une démarche pédagogique ou de partage avec les élèves, sur un plan personnel, le jeune étudiant en histoire que vous étiez jusqu'à l'enseignant d'histoire aujourd'hui, bien sûr, il y a des tas d'autres périodes, hein, les guerres ne manquent pas dans l'histoire de l'humanité, mais cette guerre, de par son ampleur, quels sont les aspects qui vous passionnent ?
Alors, à titre personnel, si je devais choisir un aspect parmi les nombreux éléments majeurs de cette grande guerre, je dirais que c'est l'année 1917. L'année 1917, c'est véritablement le basculement dans le XXe siècle. Là, on entre dans une ère complètement différente avec la révolution, évidemment, bolchévique, qui va mettre en avant donc l'idéologie communiste. Et c'est à partir de cette année-là, je pense, que naît le XXe siècle, puisque tous les conflits, tous les grands événements du XXe siècle sont nés pratiquement cette année-là. Hein, avec jusqu'à la chute du mur de Berlin, pratiquement, on a le XXe siècle qui découle de cette année 1917. Donc, pour moi, pour l'amoureux d'histoire que je suis, pour l'étudiant en histoire, c'est vrai qu'une année qui bascule aussi fortement l'avenir de la planète, l'avenir du monde, pour moi, c'est l'année 1917.
Alors 1917, bon, vous l'avez dit, c'est aussi l'entrée en guerre des États-Unis, qui reste un allié fidèle des Français et des Britanniques.
Alors on retrouve justement les deux grandes puissances qui vont s'affronter tout le reste du XXe siècle, c'est-à-dire les États-Unis, une puissance qui va naître véritablement d'un point de vue militaire grâce à son intervention dans la Grande Guerre, l'entrée en guerre des États-Unis, et son adversaire, qui deviendra l'adversaire pendant la guerre froide, le communisme.
Alors, en 17 aussi, dans les armées françaises, il y a un phénomène un peu nouveau, il y a tout de même un grand nombre de mutineries. Voilà, ça, c'est un aspect... Alors, je ne sais pas si c'est franco-français, est-ce qu'il y a eu des mutineries dans l'armée allemande ? J'avoue ne pas
très
le savoir.
Très peu, beaucoup plus du côté français, c'est vrai.
Et cet aspect, alors là aussi, au niveau des chiffres, Jean-Charles, si on doit parler de bilan, évidemment, c'est très compliqué parce que quand on parle de morts, est-ce qu'on parle des soldats morts au combat ? Est-ce qu'on parle des soldats qui sont morts des suites de leurs blessures, y compris après l'armistice de 1918 ? Est-ce qu'on parle de ceux qui sont morts à l'hôpital ? C'est très, très, très complexe, en fait, pour faire un bilan précis de cette hécatombe, cette grande boucherie de 14-18, les chiffres ne sont pas arrêtés aujourd'hui.
Alors, c'est pas simple. Si je voulais faire un parallèle avec l'actualité, je pourrais également ajouter les 50 millions de morts de la pandémie de la grippe espagnole, oui, hein, qui touche justement les pays qui ont subi la guerre. Donc oui, c'est un bilan qui n'est pas simple, mais les historiens aujourd'hui s'accordent plutôt sur un chiffre qui tourne autour de 10 millions de morts. Alors, en incluant du mieux possible les différents éléments que vous avez énoncés.
Alors, pour la France ?
C'est 1 400 000 morts, hein, sans compter, bien sûr, les innombrables blessés, les mutilés, les fameuses gueules cassées. Donc c'est un bilan très très lourd. N'oublions pas aussi les orphelins, puisqu'on compte 1 million d'orphelins en France. Hein, donc c'est les fameuses pupilles de la nation. Parmi eux, des célèbres orphelins de la Grande Guerre. Je pense à Paul Ricoeur, hein, par exemple, qui notera justement que le statut d'orphelin est très difficile, puisqu'on est sans cesse dans la figure héroïque du père. Alors on lui rappelle tout le temps, si ton père te voyait, donc c'est très difficile de vivre avec cette ombre qui plane comme ça au-dessus de soi. Donc les orphelins également. Donc il y a pratiquement toute la société qui est touchée, hein, vraiment par cette guerre.
Est-ce que la société française du XXIe siècle se rappelle encore bien ce que fut cette guerre de 14-18?
Alors je crois qu'il y a un élément qui montre que la Grande Guerre a toujours sa place. C'est notamment au moment du centenaire. Alors c'est le centenaire du soldat inconnu, mais pendant 4 ans, de 2014 à 2018, on a célébré le centenaire de la Grande Guerre. Et il y a eu un engouement exceptionnel. D'un point de vue littéraire, déjà, on a parlé tout à l'heure des bandes dessinées autour des Croix de Bois, des livres, des bandes dessinées, innombrables publications, des émissions de télévision, des films aussi. Et je crois que cet engouement, justement, montre que la place de la Grande Guerre, la mémoire de la Grande Guerre est toujours très présente.
Est-ce que vos élèves sont capables de vous dire parfois qu'ils ont eu un ancêtre dont le nom est inscrit sur un monument aux morts dans une commune de France? Est-ce que les élèves ont fait des recherches? Alors, parce que la guerre de 14 est un peu loin maintenant, effectivement. Il y a presque plus d'un siècle. Donc,
Les élèves, certains élèves en tout cas, ont notamment au moment du centenaire, dont on a beaucoup parlé justement de la Grande Guerre, ont essayé de retrouver des objets, ont essayé de retrouver justement certains, le parcours d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Donc oui, effectivement, la présence de la Grande Guerre dans les familles, on en parle encore beaucoup, hein, c'est quelque chose dont on parle, puisque notamment les noms qui sont sur les monuments aux morts, certains passent devant tous les jours, ne se rendent pas forcément compte, mais parfois, autour d'un objet, on peut se remémorer comme ça une situation familiale. Donc oui, certains s'intéressent toujours.
Alors la question s'adresse à l'enseignant. Le programme officiel de l'enseignement de cette guerre vous demande de mettre l'accent sur quels aspects de la guerre de 14-18?
Alors, c'est une excellente question. La guerre, alors dans les programmes scolaires, on insiste sur le phénomène de la guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui inclut toutes les couches de la population. On a parlé des femmes. La guerre totale, donc toutes les ressources sont utilisées pour vaincre l'adversaire. Et c'est un élément qui est intéressant puisqu'il nous permet aussi d'introduire la Seconde Guerre mondiale, qui sera une guerre totale également, mais encore plus monstrueuse par certains aspects, évidemment.
Jean-Charles Gibault, je vous remercie d'être venu nous apporter des éclairages sur quelques-uns seulement des aspects passionnants de cette grande guerre qui a meurtri le vieux continent, qui a peut-être aussi provoqué un peu son déclin et préparer d'autres guerres, malheureusement.
Ah, la Grande Guerre ouvre un siècle de fer, un siècle de guerre terrible. Et les traces de la Grande Guerre, d'un point de vue des paysages, mais aussi des conséquences, est encore présent aujourd'hui.
Alors je rappelle tout de même votre bande dessinée avec votre camarade Ilker Caliscan, donc Windicta. Donc c'est la guerre, attention, hein, c'est 52 avant Jésus-Christ, hein. Ah, c'est une autre guerre. Vous êtes l'auteur des textes, tandis que Ilker Caliscan en a fait les dessins. Donc c'est une trilogie, les deux premiers tomes sont actuellement disponibles en librairie ou sur le site de la maison d'édition. On dit YIL, hein, Y-I-L,
c'est ça,
YIL,
oui.
Et donc Windicta, tome 1...
Vae Victis,
merci Jean-Charles. Et Le Vol Noir du Corbeau, tome 2. Et le troisième tome.
Le tome 3 qui se nommera bientôt. Les Ides de Mars.
Bon, et qu'on attend fébrilement.
J'espère avant le mois de mars.
Et puis, je voudrais signaler Jean-Charles. Et d'ailleurs, je vous en offre un exemplaire. Il y a
merci.
Alors, c'est un hors-série du Figaro qui a été remis à jour. Et là, justement, c'est très intéressant. Il y a une très intéressante bibliographie où on retrouve les BD, les romans de tous ces écrivains avec un dossier sur Kessel, Apollinaire, Genevoix, bien sûr, Sandras, Hemingway, Barbus, Peggy, Junger, Perko, Alain Fournier. Drieux, La Rochelle, Céline, ceux de 14, les écrivains dans la Grande Guerre. Voici
merci.
Pour vous, Jean-Charles. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, Wagon Livre va reprendre ses rythmes d'émission de confinement, c'est-à-dire vraisemblablement avec des extraits d'anciens numéros de Wagon Livre que nous vous proposerons. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 14 novembre à 11h, toujours sur Radio. Merci encore, Jean-Charles Gibault.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Et bonne écoute sur Radio.